Rainer Maria Rilke, Histoire du bon Dieu, un conte sur la mort et un épilogue d'une main étrangère. Je regardais encore toujours dans le ciel qui s'éteignait lentement lorsque quelqu'un dit « Vous semblez beaucoup vous intéresser à ce pays là-haut. » Mon regard tomba vite, comme un oiseau abattu, et je vis que j'étais arrivé au mur bas de notre petit cimetière. Devant moi, au-delà de ce mur, un homme tenait une pelle et souriait gravement. « Et moi, je m'intéresse plutôt à ce pays-ci, » ajouta-t-il, en désignant la terre noire et humide qui, en plus d'un endroit, transparaissait entre les nombreuses feuilles sèches qui se mûrent en bruissant, avant que je ne me fusse aperçu qu'un vent s'était levé. Une horreur subite me disait « Pourquoi faites-vous cela » m'écriai-je. « Il nous nourrit, n'est-il pas vrai? Et puis, je vous en prie, tous les hommes ne font-ils pas comme moi? Ils ensevelissent Dieu là-bas, comme je fais les hommes ici. » Il montra le ciel et m'expliqua. « Oui, cela aussi, c'est un grand tombeau, où croissent en été beaucoup de myosotis sauvages. » Je l'interrompis. Il fut un temps où les hommes enterraient Dieu au ciel, cela est vrai. Les choses ont-elles changé, demanda-t-il, avec une tristesse étrange. Je poursuivis. Oui, chacun jetait alors une poignée de ciel sur lui, je sais. Mais il n'y était déjà plus, ou tout au moins. J'hésitais. Savez-vous, repris-je, autrefois, les hommes priaient comme ceci. J'étendis les bras et sentis involontairement ma poitrine s'élargir. Alors Dieu se jeta dans tous ses abîmes, plein d'humilité et de ténèbres, et il ne retournait que contre son gré au ciel qu'insensiblement il rapprocha de plus en plus de la terre. Mais une nouvelle foi commença. Comme elle ne pouvait faire comprendre aux hommes que son nouveau Dieu se distinguait de l'ancien, car dès qu'elle commençait à le célébrer, les hommes reconnaissaient aussitôt en lui leur Dieu de toujours, l'annonciateur de la nouvelle loi changea la manière de prier. Il enseigna que l'on joignait les mains et décida « Voyez, notre Dieu veut être prié ainsi. Il est donc différent de celui que vous croyiez jusqu'à présent accueillir dans vos bras. » Cela, les hommes le comprirent, et l'attitude des bras ouverts devint une attitude méprisable, terrible, et plus tard, on la fixa à la croix pour la montrer à tous comme un symbole de détresse et de mort. Lorsque Dieu jeta de nouveau ses yeux sur la terre, il prit peur. À côté des innombrables mains jointes, on avait construit beaucoup d'églises gothiques, de sorte que mains et toits, également raides et aigus, s'avançaient vers lui comme des armes ennemies. Le courage de Dieu est ailleurs. Il retourna dans son ciel. Et lorsqu'il eut observé que les tours et les prières nouvelles grandissaient autour de lui, il quitta ses cieux à leur autre extrémité et échappa ainsi à cette poursuite. Il fut lui-même surpris de trouver, au-delà de sa patrie rayonnante, un commencement de ténèbres qu'il accueillait en silence. Et, pris d'un sentiment étrange, il s'enfonça toujours plus avant dans cette pénombre qui lui rappelait les cœurs des hommes. Il se rappela pour la première fois que les têtes des hommes sont claires, mais que leurs cœurs sont pleins d'une obscurité toute semblable. et il fut pris d'un désir d'habiter le cœur des hommes. Au lieu de traverser toujours cette insomnie lucide et froide de leurs pensées. Or, donc, Dieu a poursuivi sa route. L'obscurité autour de lui se fait toujours plus épaisse, et la nuit où il s'avance a un peu de la chaleur odorante d'une glèbe fertile. Bientôt, les racines se tendent vers lui, avec le beau geste ancien de la large prière. Rien de plus sage que le cercle. Le Dieu, qui devant nous s'est enfui dans les cieux, nous reviendra par la terre. Et qui sait, peut-être un jour, lui creuserez-vous par hasard vous-même sa porte. L'homme à l'appel dit « Mais c'est un conte, cela !» Dans notre voix, lui répondis-je doucement, tout devient conte, puisqu'en elle, rien ne peut s'être passé. Pendant quelques instants, l'homme regarda devant lui. Puis, il endossa sa veste avec des mouvements brusques et demanda « Nous pourrions peut-être repartir ensemble. » J'approuvai de la tête. « Je rentre. Nous suivons sans doute le même chemin. Vous n'habitez donc pas ici ?» Il franchit la petite porte grillagée, la fit doucement tourner dans ses gonds gémissants et répondit « Non ». Après quelques pas, il devint plus confiant. « Vous aviez raison tout à l'heure. C'est bizarre que l'on ne trouve personne qui veuille faire cela ici, dehors. Je n'y avais jamais réfléchi autrefois. Mais maintenant que je me fais vieux, des pensées me viennent quelquefois, d'étranges pensées. Comme celle-là, par exemple, sur le ciel, et d'autres encore. La mort, qu'en savons-nous? En apparence tout, et en vérité peut-être rien. Souvent, lorsque je travaille, les enfants, je ne sais pas à qui ils appartiennent, sont autour de moi. Et une de ces idées, justement, me prend. Alors, je creuse comme une bête pour tirer toute ma force hors de ma tête et la dépenser dans mes bras. La tombe devient beaucoup plus profonde que ne l'exige le règlement, et une montagne de terre grandit à côté. Mais les enfants se sauvent lorsqu'ils voient mes gestes sauvages. Ils croient que je me mets en colère. Il réfléchit. Et c'est vrai que c'est une espèce de colère. On s'émousse, on croit l'avoir surmontée, et tout à coup, cela vous... On a beau faire, la mort est une chose incompréhensible et terrible. Nous suivions une longue route, sous les arbres fruitiers qui, déjà, avaient perdu leurs feuilles. Puis la forêt commença à notre gauche, comme une nuit qui, d'un instant à l'autre, peut nous envahir complètement. « Je veux vous raconter une petite histoire, » proposai-je. « Elle durera tout juste le temps d'aller jusqu'au village. » Mon compagnon hocha la tête et alluma une vieille petite pipe. Je racontai. Ils étaient deux, un homme et une femme, et ils s'aimaient. S'aimer veut dire ne rien accepter de personne, tout oublier et tout recevoir d'un seul homme, tout ce que l'on possédait déjà et le reste. Ces deux êtres, donc, souhaitaient dépendre ainsi l'un de l'autre. Mais dans le temps, dans les jours, dans tout ce qui va et vient, avant même qu'on ait établi un vrai rapport avec tout cela, une telle manière d'aimer ne peut pas toujours être observée jusqu'au bout. Les événements viennent de tous les côtés, et le hasard leur ouvre toutes les portes. Le couple décida donc de quitter le temps pour vivre dans l'éternité, loin de tous les sons d'horloge et des bruits de la ville. Et là, dans un jardin, ils se bâtirent une maison. Cette maison avait deux portes, l'une du côté droit, l'autre du côté gauche. La porte de droite était celle de l'homme, et tout ce qui était à lui devait par elle entrer dans la maison. Mais la porte de gauche appartenait à la femme, et tout ce qui était du ressort de celle-ci devait passer sous le cintre de gauche. Il en fut ainsi. Celui qui le matin s'éveillait le premier descendait et ouvrait sa porte. Et jusque tard dans la nuit, bien des choses entraient, encore que la maison ne fût pas située au bord de la route. Chez ceux qui savent les recevoir, le paysage pénètre jusque dans la maison, et la lumière et un vent qui porte un parfum sur ses épaules, et beaucoup d'autres choses encore. Des jours passés même, des figures et des destins entraient par les deux portes, et tous trouvaient le même accueil, si simple qu'ils croyaient avoir toujours habité cette maison dans la lande. Cela dura ainsi pendant quelque temps, et tous deux étaient très heureux. La porte de gauche s'ouvrait un peu plus souvent, mais par la porte de droite aussi, entraient des visiteurs de couleurs plus diverses. Devant celle-ci, un matin, attendait la mort. Lorsqu'il l'eut aperçue, l'homme ferma vivement sa porte et la tint close pendant toute la journée. Après quelque temps, la mort parut devant l'entrée de gauche. En tremblant, la femme frappa la porte et en tira le large verrou. Ils ne se parlèrent pas de cet événement, mais ils ouvrirent plus rarement les deux portes et essayèrent de se contenter de ce qu'il y avait dans la maison. Ils vécurent ainsi plus pauvrement qu'auparavant. Leurs réserves fondirent et les soucis apparurent. Tous deux commencèrent à mal dormir et, durant une de ces longues nuits d'insomnie, l'un et l'autre, au même instant, entendirent tout à coup un battement étrange et traînant. C'était derrière le mur de la maison, à égale distance des deux portes, et l'on eût dit que quelqu'un commençait à détacher des pierres pour percer une nouvelle porte au milieu du mur. Dans leur terreur, l'homme et la femme feignirent pourtant de n'avoir rien entendu. Ils commencèrent à parler, à rire trop haut, et lorsqu'ils furent là, le bruit de fouilles dans le mur s'était tu. Depuis cette nuit, les deux portes restèrent définitivement closes. Ils vécurent comme des prisonniers. Tous deux devinrent maladifs et furent hantés par d'étranges images. Le bruit se renouvelle de temps en temps. Alors ils rient des lèvres, tandis que leur cœur trépasse presque d'effroi. Tous deux savent que le bruit devient toujours plus fort et plus distinct, et ils parlent et rient toujours plus fort de leur voix de plus en plus lasse. Je me tue. Oui, oui, dit l'homme qui marchait à mon côté, c'est ainsi. Cela, c'est une histoire vraie. Je l'ai lu dans un vieux livre, ajoutai-je, et quelque chose de très étrange se produisit alors. À la fin de la ligne où la mort paraissait devant la porte de la femme, une petite étoile était dessinée d'une encre pâle. Elle regardait à travers les mots, comme entre les nuages, et je pensais un instant que si les lignes se dissipaient, il apparaîtrait peut-être une infinité d'étoiles, comme cela arrive quelquefois lorsque, la nuit, tard, le ciel de printemps s'éclaircit. Puis, j'oubliais complètement ce fait insignifiant, jusqu'à ce que je retrouvasse à la fin du livre la même petite étoile, comme reflétée dans un lac, sur le papier lisse et satiné qui couvrait l'intérieur de la revue. Et en dessous commençaient des lignes déliées qui se perdaient ainsi que des vagues dans la pâle surface miroitante. L'écriture était devenue illisible en maints endroits, mais je réussis quand même à la déchiffrer. Voici à peu près ce que je lus. J'ai lu cette histoire tant de fois et par tant de jours différents qu'il m'arrive de croire que je l'ai moi-même écrite de mémoire. Mais chez moi, la suite se déroule ainsi que je vais le dire. La femme n'avait jamais vu la mort et confiante, elle la laissa entrer. La mort dit avec une certaine hâte, comme quelqu'un qui n'a pas une bonne conscience, « Donne ceci à ton époux. » Et lorsque la femme leva les yeux d'un air interrogateur, la mort ajouta, « C'est de la semence, une très bonne semence. » Puis elle s'éloigna sans se retourner. La femme ouvrit le sachet qui était dans sa main. Elle trouva en effet une sorte de semence, de petits grains durs et laids. La femme pensa, la semence est une chose inachevée, future. Je ne veux pas donner à mon époux ces graines déplaisantes qui ne ressemblent en rien à un cadeau. Je vais plutôt les semer dans le parterre de notre jardin et voir ce qu'elles produiront. Alors, je le conduirai devant cette plante et lui expliquerai. Ainsi fit la femme. Puis ils reprirent la même vie qu'auparavant. Le mari, qui devait toujours penser que la mort avait été debout devant sa porte, commença par concevoir des craintes. Mais voyant sa femme hospitalière et insouciante comme toujours, lui aussi ouvrit bientôt sa porte à large battant, de sorte que beaucoup de lumière et de vie entrait dans la maison. Le printemps suivant, il y eut au milieu du parterre, entre les lys rouges, un petit arbrisseau. Il avait des feuilles étroites et noirâtres, légèrement pointues, semblables à celles du laurier, et un singulier éclat planait dans son obscurité. L'homme se proposait chaque jour d'interroger sa femme sur la provenance de cette plante. Mais chaque jour, il le négligeait. Par un sentiment analogue, la femme remettait d'un jour à l'autre son explication. Mais la question réprimée d'un côté, et la réponse que de l'autre côté la femme n'osait jamais faire, réunissait toujours de nouveau le couple près de cet arbrisseau, dont l'obscurité verte se distinguait si étrangement du jardin. Lorsque vint le printemps suivant, ils s'occupèrent de ce buisson comme des autres plantes et s'attristèrent lorsque, entouré de tant de fleurs jaillissantes, il resta, inchangé et muet comme l'année précédente, sourd à tous les appels du soleil. En ce temps, ils résolurent, sans rien trahir l'un à l'autre de leur décision, de consacrer toute leur force au troisième printemps. Et lorsque celui-ci vint, doucement et la main dans la main, ils accomplirent ce que chacun d'eux s'était secrètement promis. Le jardin autour d'eux devenait sauvage, et les lys rouges paraissaient plus pâles qu'autrefois. Mais un jour qu'après une nuit lourde et couverte, ils pénétrèrent dans le jardin matinal, silencieux et rayonnant. Ils surent, entre les feuilles noires et aiguës du buisson étranger, une fleur pâle et bleue avait jailli, intacte, bien que déjà l'enveloppe du calice se fît de tous les côtés trop étroite. Et ils étaient debout devant la fleur, mais silencieux. Et à présent, il n'avait vraiment plus rien à se dire, car il pensait « Maintenant la mort fleurit. » Et ils se penchèrent en même temps pour goûter le parfum de la jeune fleur. Depuis ce matin-là, tout a changé dans le monde. Voici ce qui était écrit dans la reliure du vieux livre, conclus-je. Et qui a écrit cela? Demanda l'homme. Une femme a en jugé par l'écriture, répondis-je. Mais à quoi bon chercher? Les lettres étaient pâles et un peu démodées. Sans doute était-elle morte depuis longtemps. L'homme était perdu dans ses pensées. Enfin, il avoua. Une simple histoire, et qui vous touche quand même. Sans doute parce que vous n'entendez que rarement des histoires, le rassurai-je. Croyez-vous? Il me tendit sa main, et je la retins. Mais je voudrais la relire. Est-ce permis? J'approuvai de la tête. C'est vrai que je n'ai personne, se rappela-t-il tout à coup. À qui devrais-je la raconter? C'est bien simple. Aux enfants qui, parfois, vous regardent travailler. À qui d'autre? Les enfants ont enfin entendu les trois dernières histoires. Celle qui leur a été répétée par les nuages du soir, en partie seulement, si je suis bien renseignée. Car les enfants sont petits, et les nuages du soir sont par conséquent très éloignés d'eux. Cela vaut d'ailleurs mieux pour cette histoire. Malgré le long discours suivi et bien équilibré de Hans, il reconnaîtrait qu'il s'agit d'une histoire qui se passe chez des enfants, et il risquerait de l'apprécier en critique compétent. Or, il vaut mieux qu'il n'apprenne pas au prix de quel effort et avec quelle maladresse nous vivons les choses qui leur paraissent si aisées et si simples.